Vertige. Quand la crise écologique nous donne le vertige. Tous les derniers lundis du mois de 19h à 20h, on vous propose de remettre les pieds sur terre pour un atterrissage tout en douceur. Tout de suite sur Prune 92 FM et sur prune.net.
Bonsoir à toutes et à tous, il est 19h et bienvenue dans Vertige, l'émission qui explore l'écologie sans perdre l'équilibre. Vertige est une émission proposée par plusieurs étudiants et étudiantes du Master Humanité Environnementale, où l'écologie est abordée avec douceur, sérénité et sensibilité. Ce soir, nous avons autour de la table plein de magnifiques étudiantes. Alors, nous avons Sian.
Bonsoir.
Louta.
Salut, salut.
Mélissande.
Bonjour.
Mélina.
Hello.
Romane.
Bonsoir.
Et Mathilde.
Bonsoir.
Des chroniqueuses passionnantes qui vous réservent plein de surprises. Et bien sûr, à la technique et au micro, c'est moi, Fiona. Mais Vertige, ce n'est pas seulement nous. Un grand merci à Anaïs et Simon qui travaillent dans l'ombre pour donner vie à cette émission. Petite confidence d'ailleurs. Il se pourrait bien que Simon fasse une apparition ce soir. Oh. Alors, comment ça va ce soir autour de la table ?
Ça va hyper bien. On est trop contents d'être là.
Moi aussi, honnêtement, ça va super. Hein. Je suis super contente d'être là aussi. Merci à vous toutes.
Au top, au top, au top, au top.
Ça va, j'ai très hâte.
Moi aussi, ça va super. Je suis très contente d'être là pour notre deuxième émission et je pense que ça va vous plaire.
Ouais, moi ça va aussi. C'est ma première, donc hâte de voir ça.
Bienvenue.
Merci.
Bienvenue.
Et toi, Fiona, comment est-ce que ça va ?
Moi, ça va. Mais on n'est pas un peu fatigué, non ? Les fêtes de fin d'année, c'est toujours une période chargée. Entre les préparatifs, les attentes sociales, les dépenses et nos familles. PS, je sais que vous nous écoutez, mais on vous aime. Okay. Mais avec tout ça, on peut vite se sentir débordé. Mais voilà, avec la nouvelle année qui approche, c'est souvent le moment des introspections. On se rend compte que le temps file et qu'on entre déjà en 2025. La sensation que tout s'enchaîne. Et ce n'est pas seulement nous les humains qui sommes fatigués. Notre planète aussi trouve que tout va trop vite, vous ne croyez pas ?
Carrément. Si, si, carrément.
C'est pourquoi ce soir, on vous propose une émission sur l'éloge de la lenteur. Pendant une heure, nous allons prendre le temps et nous allons ensemble faire nos plus belles louanges à la lenteur. Au programme, nous vous proposons un nouveau regard sur la seconde main. Nous discuterons des enjeux liés à notre sol. Nous aurons un moment de réflexion sur la lenteur et nous vous emmènerons dans du sensible avec une lecture et de la musique. Après ce jingle, on embarque avec Louta, Romane, Sian et Mathilde qui vont nous partager leurs anecdotes et leurs réflexions de voyage.
Et oui, on avait envie de vous parler de voyage aujourd'hui, parce que le voyage c'est trop chouette, mais c'est vrai que c'est un enjeu écologique de taille. Aujourd'hui on parle beaucoup d'empreinte carbone des moyens de déplacement, et notamment de l'avion. Et pour faire face à ça, il y a un peu une nouvelle façon de voyager qui se développe, un mouvement qu'on appelle le slow travel, ça veut dire voyager lentement. Le slow travel, donc, ouais, en fait, c'est un mouvement qui a pour but de nous amener à voyager moins loin, mais à voir des choses tout aussi belles, et à explorer d'autres modes de déplacement, comme par exemple le train, le bus, le vélo, plein de choses.
Ok, mais c'est super de parler de concepts comme le slow travel, etc. Mais comment est-ce que réellement ça s'intègre dans la vie des gens ? On aurait bien aimé, on aimerait bien explorer ça ensemble et avec vous là aujourd'hui, parce qu'on trouve que c'est important de parler de choses qui sont concrètes pour faire de l'écologie à taille humaine et pas toujours être dans le théorique et dans l'abstrait, quoi. Donc on va prendre un petit temps pour partager des anecdotes et des expériences, et j'aimerais bien vous demander à toutes ici autour de la table, est-ce que c'est un truc que vous essayez de faire régulièrement ou pas, voyager autrement, plus lentement ? Et si oui, comment vous le vivez ? Et si vous avez une petite anecdote à partager avec nous, ce sera avec grand, grand plaisir. Donc, en premier, je sais pas, Roman, est-ce que tu as quelque chose à partager avec nous ?
Ouais, carrément. Bah, j'ai une petite anecdote. Moi, il y a 2 ans, j'ai pris une année sabbatique pour voyager. C'était exprès pour ça. Mais je voulais pas prendre l'avion. Du coup, bah, j'ai pris le train et la voiture. Et cette année-là, elle a vraiment changé mon rapport au temps. Parce qu'avant, j'aimais pas trop les longs trajets. Ça m'ennuyait, je trouvais ça long, chiant, enfin, j'aimais pas du tout ça. Et sauf que là, pendant cette année-là, bah, j'ai passé beaucoup, beaucoup de temps dans le train, dans la voiture, des journées entières, des soirées entières. Et c'est vraiment devenu une habitude. Et du coup, c'est un truc qui maintenant me gêne beaucoup moins. J'ai vraiment appris à aimer ça. Et je trouve que ce truc de lenteur aussi, ça m'a permis de mieux réaliser le chemin que je parcourais, de voir en fait les paysages défiler devant moi de près. Et pas juste des mètres et des kilomètres de hauteur au-dessus. Et donc, ouais, je trouve que tu réalises mieux le chemin que tu parcours et tu apprends à t'ennuyer aussi. Et l'arrivée est encore plus satisfaisante. Parce que du coup, t'en as un peu bavé, entre guillemets, pendant ton parcours. Et donc, tu es vraiment très, très content d'être là. Donc voilà, après quand je repense aussi à cette année-là, je trouve que il y avait quand même encore un peu ce truc de surconsommation avec du recul, parce que du coup j'avais 1 an devant moi et c'est un luxe quand même qu'on peut pas tout savoir dans la vie. Et donc je me suis dit bah c'est l'année ou jamais, et donc j'ai essayé d'aller vite et de voir beaucoup de choses. Donc avec du recul je le ferais quand même un peu différemment, mais ça nourrit toujours ma réflexion justement sur le voyage. Donc c'était vraiment une expérience trop cool.
Moi, je trouve que c'est hyper intéressant, justement, ce truc de en fait, voyager lentement, ça donne aussi un voyage qui est plus riche et qui est plus intense, où on se donne plus le temps de connecter avec le trajet, avec potentiellement d'autres personnes autour de nous, avec cette transition de paysage qu'on ne voit pas tout le temps quand on est plutôt dans le fast travel, du coup. Mais c'est hyper intéressant. Et Sian, je sais pas si toi, voyager lentement, voyager autrement, c'est quelque chose que tu as déjà eu l'occasion de faire, d'explorer.
Oui, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai pu faire. Je vais surtout vous parler d'un voyage en bus que j'ai pu faire. Parce que même si j'adore le train, etc., on va pas se mentir, le bus, c'est quand même un peu plus accessible. Et je vais vous parler d'un voyage en bus que j'ai fait entre l'Andalousie, donc le sud de l'Espagne, et la Bretagne. Alors, il faut savoir que l'année dernière, j'habitais à Grenade, en Andalousie. Et donc, j'ai plusieurs fois eu l'occasion de faire ce trajet en bus. Et c'est vrai que ça m'a un peu facilité la tâche, le fait qu'il y ait un bus Nantes-Grenade direct qui existe. C'est assez chouette. Et donc, je vais vous raconter comment s'est passé ce trajet, parce que c'était quand même assez ouf. Alors, avant le trajet, forcément, je pense que comme beaucoup de personnes, je me disais, mais oh là là, 24 heures dans un bus, mais ça va être horrible. Comment est-ce que je vais pouvoir dormir? Comment est-ce que je vais passer le temps? Et au final, en fait, j'ai kiffé ce trajet. Genre vraiment, c'était trop bien. Bon, déjà, il faut voir le contexte. Je partais de Grenade pour rentrer chez ma famille pour les fêtes. Et il y avait du soleil, etc. C'était une très belle journée. Et c'est assez ouf l'impression que j'ai eue en m'asseyant dans ce bus. Parce que je me suis dit, ah mais là, en fait, j'ai 24 heures devant moi pour faire absolument tout ce que je veux. Genre, je suis bien installée dans le bus et tout. Et je peux lire, je peux écouter de la musique, je peux regarder tout ce que je veux sur mon ordi et j'ai juste en fait le temps devant moi. Et c'était assez ouf. Je trouve aussi qu'être dans un bus, comme ça, ça a un aspect très méditatif. Genre juste t'es là et t'as pas de contraintes parce que bah, tu peux rien faire d'autre que regarder le temps passer. Donc ouais, c'est un moment assez chouette pour penser à sa vie, à plein de trucs et tout, et regarder le paysage. Je crois que regarder le paysage, c'est vraiment l'aspect qui m'a le plus plu. Parce que le paysage est extrêmement changeant entre l'Andalousie et la Bretagne. Bon, surtout entre l'Andalousie et le nord de l'Espagne, parce qu'après on traversait la France de nuit. Et c'était assez fou en fait. Genre, imaginez-vous, on part de Grenade et le paysage, il est doré. Le paysage, c'est que des champs d'oliviers à perte de vue, avec des montagnes de pierre un peu, c'est très vallonné. Et au fur et à mesure, on voit que ça évolue, que le paysage devient un peu plus vert, qu'il y a un peu moins d'oliviers, mais peut-être des amandiers. On voit vraiment la végétation évoluer au fur et à mesure avec le climat qui change, etc. Et on passe par plein de villes, etc. Enfin bref, c'était chouette. Et je me souviens que le soir, donc au moment où j'allais dormir pour passer la nuit dans le bus, je m'étais dit, mais waouh, j'ai l'impression d'avoir passé une super journée. Alors que ma journée, bah, c'était être dans le bus. Voilà, donc je pense que les trajets en bus peuvent aussi être très chouettes, même si c'est pas toujours le cas. Rien qu'avoir un petit coussin de nuque et des petits bouchons d'oreilles, ça aide à mieux supporter ça.
Eh ben c'est absolument incroyable. 24 heures, j'avoue que c'est hyper long. J'ai jamais fait de trajet, que ce soit en bus ou dans un autre mode de transport aussi long. Mais c'est fabuleux que tu aies quand même pu y prendre du plaisir, surtout si tu l'as fait plusieurs fois. Du coup, j'imagine qu'à chaque fois, c'était une expérience hyper différente, parce qu'en fonction de la saison, en fonction du moment, en fonction de toi, ton état intérieur, ça devait grave affecter l'expérience, quoi. Mais c'est vraiment chouette et je pense que ça rejoint pas mal ce que Romane disait avant sur vraiment avoir l'opportunité de s'ennuyer aussi, découvrir l'ennui, parce que c'est chouette aussi parfois d'être dans une situation où on peut se permettre de s'ennuyer et c'est chouette aussi de remplir cet ennui ou de remplir ce temps-là et de pas avoir l'impression qu'on perde son temps parce que on le savoure justement et on en fait quelque chose de productif même si c'est pas être toujours en action, quoi. Donc, cool. Moi, je vais vous partager une anecdote aussi, parce que le slow travel, c'est un truc auquel je réfléchis beaucoup, que j'ai beaucoup pu faire. Après, j'ai aussi, je vous le confesse, fast travelé. Ouais, j'ai été une fast traveleuse dans mon temps. Ouais, non, mais je vous assure, j'en suis pas fière. J'en suis pas fière du tout. C'est vrai, acceptez-moi avec mes défauts, s'il vous plaît. Mais ça m'est déjà arrivé pas mal de fois de prendre l'avion pour aller loin. Et c'est vrai que d'un côté, c'est des expériences hyper riches, parce que j'ai vu des paysages qui étaient complètement différents, notamment en Afrique. Mais le slow travel, c'est un truc que j'essaie d'incorporer le plus possible dans mon quotidien. Dans mon quotidien, quand je vais en vacances, etc. Parce que je pense que c'est vraiment intéressant, même à une échelle personnelle. Je pense que ça peut beaucoup nous apporter et ça peut beaucoup nous ancrer. Et justement, ce dont j'aimerais bien vous parler, c'est cet ancrage dans l'humain, en fait, dans l'interaction, dans le social. Parce que moi, le slow travel... comment je le vois, comment je le définis, c'est aussi un détachement de la technologie dans une certaine mesure. Le fait que j'essaye le moins possible d'utiliser mon téléphone quand je vais dans un endroit qui est différent. Je me laisse la possibilité de me perdre. J'aime avoir ces situations où je ne sais pas toujours où je suis et c'est OK. Parce que ça prend plus de temps, mais c'est aussi plus appréciable parce qu'on découvre plus le paysage autour de nous. Et quelque chose qui me marque, moi quand même, c'est je discute beaucoup avec mon père du voyage parce qu'il a beaucoup voyagé quand il était jeune. Et quand il me raconte ses anecdotes de quand il était jeune et qu'il partait en gambade hyper spontanément du jour au lendemain, il partait avec une carte. Ils n'avaient pas de portable, ils n'avaient pas de Google Maps. S'il prenait un train, il était obligé d'aller au guichet et d'interagir avec une personne pour acheter son billet de train. Et donc déjà, au tout début de l'aventure, il y avait déjà cette interaction humaine qui était inhérente, quoi. Et au fur et à mesure de son trajet, quand il ne savait pas où il était, quand il cherchait une rue ou quoi que ce soit, il rentrait dans une boulangerie, il rentrait quelque part pour demander des directions. Et donc il y avait vraiment ce rapport, cette connexion hyper profonde avec son entourage et c'était vraiment une expérience humaine et c'est un truc qu'on perd pas mal parce qu'il y a la facilité de la technologie mais je pense qu'en un certain sens le slow travel c'est aussi une expérience humaine et c'est pour ça que c'est aussi intéressant et aussi important de l'intégrer quoi. Donc voilà, Mathilde, je te laisse rebondir là-dessus. Est-ce que tu as une anecdote pour finir à partager avec nous?
Eh bien, j'aime bien les expériences de ton père et j'avoue que je me reconnais un peu là-dedans. Moi, en gros, j'étais à Oslo pendant 5 mois et je pense qu'il y a un truc aussi qu'on oublie dans le slow travel, c'est aussi le moment de dernière minute. Parce qu'aujourd'hui, on organise beaucoup les voyages en mode je vais faire tel itinéraire. Et moi, j'apprécie beaucoup le dernière minute maintenant, de se dire sur un coup de tête, vas-y, on y va. Et là-dessus, c'est ce qu'on a fait pas mal pendant mon Erasmus, mais pas en allant bien loin. Par exemple, une de mes premières expériences, c'était de partir 2 jours dans la pampa, là, dans la forêt, et avec des gens que je ne connaissais pas beaucoup, genre de 1 ou 2 jours, et de faire totalement confiance à quelqu'un qui te dit « Ouais, ok, vas-y, on va dans la forêt, je connais l'itinéraire, babamos. » Et c'était une de mes meilleures expériences, enfin... de se balader dans la forêt en Norvège, qui est juste magnifique. Enfin, la nature est vraiment incroyable là-bas. Et de partager ensemble, comme ça, on était 4, se dire, on va manger des myrtilles comme ça, ouais, au pire on sera malade. Bon, non, c'est un peu dangereux, faut pas faire. Mais bon. Non, mais c'est vrai que c'est cool aussi de se dire faut pas trop se prendre la tête dans le voyage et de sauter sur les occasions quand il y en a. Et je trouve que marcher aussi, c'est carrément une autre façon de voyager parce que tu as vraiment conscience de l'effort que tu fais, de la distance que tu fais. Et après, quand tu regardes la carte et tu dis ah ouais, on a quand même fait tout ça, enfin, c'est vraiment une expérience que je kiffe et que je préfère bien plus prendre le bus, la voiture ou quoi que ce soit. Donc ouais, les petits pieds, ça sert.
Eh bien, incroyable. Incroyable. La spontanéité, le relâchement, la reconnexion. Plein de grands mots hyper positifs, en fait. Donc voilà, vous l'aurez compris, nous, on est quand même des assez grosses fans du slow travel. Et pour partager un peu plus avec vous notre réflexion sur le voyage alternatif, entre guillemets, et vous montrer à quoi ça pourrait ressembler pour nous, une aventure de voyage lent, on a envoyé quelqu'un sur le terrain. Ouais. Simon, notre correspondant, qui est en fait juste un bon ami à nous, est parti et rentré chez lui en Normandie en stop, il y a quelques semaines de cela. Et il nous a fait le grand plaisir d'enregistrer son aventure. Alors, c'est des heures et des heures d'enregistrement qu'on ne va pas vous infliger. Mais ce que vous allez entendre, c'est un montage de quelques minutes de son trajet vers Blainville-sur-Mer. Un voyage qui, par moments, était légèrement épique et par moments, était un peu difficile, un peu long. Pas toujours facile, en fait, un peu fatigant. Mais je pense que c'est justement ces deux dimensions, d'un côté, cette stimulation et d'un autre côté, la contrainte, qui font de ce voyage une aventure. Donc, vous invite à vous laisser emporter par cette aventure sonore. Et merci encore à Simon pour ses enregistrements.
10h du mat, c'est parti pour un petit voyage en stop vers le foyer familial de Normandie, Blainville-sur-Mer. Moi voilà, je suis au Cardo, il fait beau, ciel bleu, un peu frais, un max de voitures. Espérons que ce soit des gens sympas. Là, c'est le moment où je peux encore espérer être pris dans les 5 prochaines minutes. Mais ça se trouve, je vais être pris dans 1h30. C'est assez marrant de voir l'expression des gens quand tu fais du stop, quand ils te voient. Parfois, ils t'ignorent, parfois, ils font des gestes bizarres avec leurs mains. Parfois, juste un petit pincement de lèvres. Toi, tu essaies juste de leur envoyer de l'empathie, de faire naître l'empathie par un simple regard ou un petit sourire d'humain mignon. Mais bon, je pense que sur 100 voitures, tu as une personne qui ressent peut-être ça. Je sais pas. Je me vois pas, je me vois vite fait. Ah, me voit, mais vite fait, me voit, pas de réaction. Je le sens moyennement. Faisons en sorte de ne rien demander aux gens. Ce sont eux qui me cueillent, s'ils le souhaitent.
Ah, non plus.
Ah, petit pincement de lèvres. Il est 11h20. Ça fait une demi-heure que j'attends. Peut-être parce que j'ai une coupe chelou, personne ne me prend en fait. Salut! Moi je vais direction de Rennes.
Bon ben viens, je te remets.
Ah trop bien, merci. J'arrive, je prends mon sac.
Tu vas à Rennes même?
Non, moi je vais en
Normandie. Normandie?
Ouais. Smile at me. Nothing but blue sky do I see. Blue bird singing a song. Treize heures sept. Je suis arrivé à Rennes. Il m'a bien parlé de guerre, armes, voiture. Voilà, il fait toujours beau, c'est cool. Donc là, je suis dans le sud de Rennes, L'idée, c'est de traverser la ville en métro et refaire du stop dans le nord de Rennes. Peut-être s'envoyer un petit falafel à mi-chemin. Puis on va être bien. Je vais prendre un sandwich caviar d'aubergine avec des frites, s'il te plaît. Supplément frites.
Dans le sandwich,
ouais. Je suis bien là, je suis sur les marches à Sainte-Anne. Sandwich pita, caviar d'aubergine, soleil dans la face, et j'en marche tranquillement. C'est paisible, j'aime bien.
Station et parc relais Cessan via Silva, accès Rennes Atalante Chamblanc. Terminus de la ligne, nous vous demandons de bien vouloir quitter la rame. Merci.
Brûlé au vent des larmes de nanana.
Quarante minutes d'attente. Bon, ça fait une heure que j'attends. 1h20. Bon bah, je vais prendre un train. Coutances. 20h20. Ok, 20h41. Après un départ à peu près 10h50, me semble. Je suis arrivé à bon port 10 heures après. Bonsoir.
Eh bien, merci beaucoup pour cette balade sonore avec Simon en personnage principal, notre grande star. Et un grand merci à Luta pour cette composition. Maintenant, place à Mélina et moi, qui vous proposons un autre univers, celui de la seconde main. Mais avant de commencer, Mélina, il me semble que tu as une question pour nous.
Ouais, est-ce que vous connaissez la fast fashion ?
Oui.
Assurément, ouais, assurément. Mmh.
Ouais, je pense que c'est un terme dont on entend beaucoup parler ces dernières années. Et c'est normal parce que on le sait bien, la fast fashion, c'est super problématique. Niveau climat, déchets, transport, rémunération des ouvriers. Parce qu'en fait, l'industrie de la mode crée plus de gaz à effet de serre que les vols internationaux et le trafic maritime réunis quand même. Ça craint. Et donc c'est vrai que beaucoup se tournent vers ce qu'on pourrait appeler la slow fashion. Et oui, c'est pour ça qu'on vous en parle pendant l'éloge de la lenteur. Entre Le Bon Coin, les friperies ou encore Vinted, on a beaucoup de choix. Mais c'est vrai qu'il y a quand même une petite face cachée des applications comme Vinted. Par exemple, vous voyez ces personnes qui reçoivent des nouveaux colis Vinted toutes les 4 matins ? Bah en fait, c'est un peu de la surconsommation décomplexée et ils ressentent aucune culpabilité, ce qui est normal en soi, car c'est de la seconde main. Mais du coup, c'est vrai qu'on ne change pas trop notre manière de consommer, notre manière de penser le vêtement et on garde un peu cette logique d'acheter des vêtements vite et pour pas cher. Ce qui fait que du coup, c'est tout le temps et en grande quantité, quoi.
Il est intéressant de noter que la fast fashion a complètement envahi les sites de seconde main, comme Vinted. C'est vrai, jetez un coup d'œil et vous verrez rapidement ce constat. Une grande partie des vêtements proposés proviennent de la fast fashion. Mais ça ne s'arrête pas là. Malheureusement, il y a aussi des répercussions sur les friperies. Les vêtements produits aujourd'hui par la fast fashion finiront par rejoindre le marché du vintage dans une dizaine d'années. On n'y pense pas forcément, mais ça va affecter la qualité des pièces qu'on retrouvera dans nos friperies.
Oui, c'est vrai. Et puis du coup, on a aussi un peu cette culture de la revente de vêtements. Au lieu d'avoir le réflexe, comme avant, à plutôt faire des dons, Parce que du coup, maintenant, il y a beaucoup de gens qui veulent faire du profit en se débarrassant de leurs vêtements, du coup. Alors que c'est vrai que y a beaucoup de friperies associatives ou responsables, comme Emmaüs, par exemple, qui fonctionnent uniquement sur le don. Donc c'est vrai que si tout le monde commence à vouloir vendre sur Vinted ou être monétisé, ça va devenir compliqué. Surtout que Emmaüs permet de créer des emplois pour des personnes qui sont éloignées du marché du travail. Et donc c'est pour ça que ça fonctionne uniquement sur les dons. Bon, après quand même, c'est quand même mieux d'utiliser Vinted que d'acheter tous ses vêtements sur Shein, qu'on se le dise.
Je sais pas. Je sais que ça peut sembler un peu déprimant quand on vous dit que la seconde main n'est pas toujours aussi vertueuse qu'on le pense. Mais pas de panique, l'équipe de Vertige est là pour vous sauver. On vous propose une initiative nantaise que certains de nos auditeurs et auditrices connaissent peut-être déjà. On voulait vous parler du collectif Boultafrip. Est-ce que Mélina, tu connais ?
Ouais, je pense que je l'ai vu récemment.
Boultafrip est une association de fripiers et fripières professionnels nantais. Ce collectif promeut une friperie locale et engagée. Mais qu'est-ce que ça veut dire une friperie locale ? Ce collectif participe activement à l'économie circulaire de la région. En effet, il collabore directement avec des ressourceries et des associations locales. En plus, tous les acteurs de ce collectif sont des véritables passionnés. Ils prennent le temps de dénicher des petites pépites de seconde main pour nous. Il faut ajouter que Boultafrip propose une large gamme de prix et surtout des vêtements de qualité. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil à leur boutique et à leurs réseaux sociaux.
Je pense que du coup, ce qu'on peut retenir, c'est que beaucoup de personnes se dirigent vers les friperies et Vinted d'abord pour le prix, ce qui est absolument normal et compréhensible. Mais en même temps, il ne faut pas oublier que quand même, pour avoir des produits de qualité, parfois, il faut une recherche et un travail derrière. Et donc, c'est vrai que des fois, ça peut augmenter le prix des produits. Donc en fait, je pense qu'il faut un peu trouver un juste milieu entre les friperies qui sont plutôt pas chères et les friperies avec un prix un peu plus élevé, avec Vinted et tout. Voilà.
Il est essentiel de sensibiliser à l'impact de cette industrie polluante, qu'est la fast fashion. Priorisons la qualité plutôt que la quantité. Avant d'acheter une pièce, posez-vous ces questions. Quand vais-je la porter ? En ai-je vraiment besoin ? Et est-ce que je l'aimerai encore dans 2 ans ?
Vertige.
Désolée. Rebonsoir, vous êtes toujours sur Vertige, l'émission qui explore l'écologie sans perdre l'équilibre. Nous enchaînons avec notre point scientifique. Mélissandre, c'est à toi.
Eh oui, c'est moi. Je vous avais manqué ?
Énormément. Énormément, Mélissandre. T'as vraiment pas idée.
Oui, alors moi, je vais vous faire un petit point scientifique. C'est vrai qu'on a parlé de la lenteur dans le voyage, on a parlé de la lenteur dans nos consommations. Et donc moi, je vais vous parler du temps et des temporalités chez l'humain et dans le vivant. Vaste sujet. En fait, le temps, c'est un concept fondamentalement humain. Quand on parle de temps, on pense continuité. Donc présent, passé, avenir, ça nous paraît être une notion qu'on ne peut pas trop remettre en question. Hein. Mais en fait, c'est vraiment une construction qui n'a pas de réalité physique. On ne peut pas le toucher, le temps, on ne peut pas le voir en fait. Mais le temps, c'est des enregistrements que l'humain a inventés pour comprendre cette notion de temporalité. Ce n'est pas pour autant que le temps n'est pas perceptible en revanche. Chaque année, pensez à ces arbres qui perdent leurs feuilles, qui les renouvellent et ensuite les reperdent l'année suivante. Cette idée de cyclicité qu'on aime bien, nous, ici, à Vertige. Il y a l'alternance jour-nuit aussi. On parle de cycle nyctéméral, grand mot. Il explique pourquoi nous, humains et humaines, sommes actifs et actives de jour et dormons la nuit. À côté des temporalités du système Terre, notamment les processus naturels qui sont régis au sein des écosystèmes, l'espérance de vie humaine paraît insignifiante. Nos perceptions du temps, elles biaisent complètement nos rapports à nos environnements et aux écosystèmes. Certains chercheurs et chercheuses parlent même de crise de la temporalité. On n'arrive pas du tout à articuler le temps du vivant et des écosystèmes avec celui de la société et de l'action publique et privée. Et ça nous intéresse pas mal en fait. Je les cite, ils parlent de temps dégradé des écosystèmes, de temps détraqué des sociétés dans leur quotidienneté. Je fais des grosses guillemets avec mes doigts là. Et on vous mettra les références de cet article sur le site de Prune, si ça vous intéresse. Bon, là, ça fait pas mal de théories, c'est bien marrant, mais ça manque de concret. Et on a eu un exemple avec Anaïs, avec qui j'ai écrit cette chronique, dans la nature, de ces différentes temporalités qu'on n'arrive pas bien à saisir, nous, les humains et les humaines. Je vais vous parler du sol. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé ce qu'il y a sous vos pieds ?
Ouais, vite fait, hein. Tous les jours. C'est une réflexion qui occupe environ 10 heures.
Ah ouais.
Non, je rigole pas tant que ça.
Bon, le sol, c'est quoi ? Le sol, c'est un support. On marche dessus. Il est dur, solide, c'est une surface, certes, mais c'est aussi bien plus que ça. Quand on marche souvent sur du béton, plus souvent que sur une prairie verdoyante, on ne mesure pas du tout le monde qui se cache sous nos pieds. Le sol, c'est un lieu plein de vie, formé par des milliers d'années. Et c'est toute une vie végétale, mais aussi animale. Pensez aux petits vers de terre, là, qui peuvent facilement créer de la répulsion chez certains et certaines, alors qu'en fait, c'est un animal hyper fondamental. Mais alors pourquoi on vous parle de sol dans une émission sur le temps et la lenteur ? Vous inquiétez pas, on ne s'est pas perdu en route, on n'est pas du tout hors sol. Au contraire, dans les sols interviennent toutes sortes de processus naturels successifs ou simultanés. Mais l'échelle de temps de ces processus et leurs conséquences n'est pas du tout du même ordre. Et ça illustre donc bien cette diversité de temporalité dont je vous parlais tout à l'heure et qu'on ne sait pas ou qu'on ne veut pas plutôt prendre en compte lors de son exploitation. Dans le sol se superposent plusieurs temps. On a d'abord le temps court, qu'on compte en semaines, en jours, en mois, en années. À cette échelle temporelle, on peut observer la faune du sol prospérer, les racines des plantes se développer. Donc je vous ai dit, pensez aux vers de terre, mais aussi à d'autres organismes vivants comme les taupes, les champignons, mais aussi les bactéries, les plantes diverses et variées, les mousses, blablabla. Après, on a aussi les temps moyens. Alors là, on est sur plus des décennies, 10 ans, un temps un peu plus long. C'est le temps de la pousse des arbres, par exemple, primordial dans le fonctionnement de certains écosystèmes. Imaginons une opération de déforestation mise en place dans une forêt près de chez vous. On enlève les arbres, les années passent, et vous constatez que les arbres ayant disparu, plus rien ne maintient correctement le sol, et celui-ci voit sa couche supérieure être emportée par les pluies. Ça s'appelle l'érosion, vous en aurez déjà peut-être entendu parler.
Oui.
Et enfin, le temps long, en siècles, en millénaires, en millions d'années. Et en fait, la formation du sol, c'est un très bon exemple. Le sol, il ne se forme pas en 2 heures. C'est un processus très long qui dépasse largement l'échelle de la vie humaine, petit être égocentrique que nous sommes. Ce processus porte un nom, ça s'appelle la pédogenèse. En fait, concrètement, sous nos pieds, bien en profondeur, vous avez une roche qui s'appelle la roche mère, une roche originelle en fait, qui va s'altérer suite à divers facteurs comme le pH, l'eau ou les organismes vivants. Et ça, ça peut prendre vraiment des milliers d'années. Et en fait, c'est que la première étape, parce qu'ensuite, les animaux, les végétaux, ils meurent en surface, ils se décomposent et ils vont former la matière organique composant le fameux humus que vous connaissez peut-être. Notre sol en formation va progressivement s'individualiser, se différencier en couches, ou appelées horizons, et en fait, ça va s'accumuler pour former l'épaisseur du sol, quoi. On vous le donne dans les grandes lignes, hein, mais si vous voulez creuser le sujet, humour, allez lire la BD Sous Terre, elle est vraiment incroyable. Bref, que tirer de ces enseignements ? Eh bien, à l'heure où la population mondiale croît de plus en plus, et on a besoin de plus en plus de ressources en fait, des pratiques agricoles durables comme la permaculture et l'agroforesterie font de plus en plus parler d'elles. C'est dans les deux cas un autre rapport à la terre et au temps qui se joue. L'agriculteur ou l'agricultrice prend le temps d'observer, de s'ajuster aux dynamiques naturelles au lieu de forcer ses interventions. En fait, on peut dire qu'on cultive le laisser-faire en prenant la désincarnation du travail du sol et en laissant la possibilité à la végétation de s'exprimer librement en collaborant avec les animaux et les champignons qui l'entourent. Bref, laissons la terre tranquille.
Merci beaucoup, Mélissande, pour cette chronique. C'est vrai qu'on ne pense pas assez à notre sol, en fait.
Non, on n'y pense pas du tout. Et c'est pour ça que je suis là, en fait.
Heureusement que tu es là. Et maintenant, on vous propose une pause sonore, tout en douceur, avec une chanson de Rachel Chinouriri en version acoustique qui s'appelle So My Darling. Bonne écoute. Remember, I always love you.
days of our thoughts and watching me grow to be new. I hope you love me too. So my darling, so my darling, so my darling, when our hairs are turning gray, won't even remember our younger days. So my darling, so my darling, my baby, my boo, you are my best friend, you are my best friend. Remember, I always love you.
My Darling, en version acoustique de Rachel Chinouriri. Et place à Sian et Mélina, qui vous propose une discussion sur l'art de prendre le temps.
Et oui, on s'est rendu compte que la lenteur, ça nous faisait pas mal réfléchir avec Mélina.
On s'est un peu prise pour des philosophes, quoi.
Complètement même. Toi, Mélina, tu dirais que la lenteur, ça t'évoque quoi ?
Je pense que ça m'évoque de prendre le temps, de se poser, de ne rien faire. Et quand on fait rien, en fait, le temps ralentit. Et je pense qu'on prend plus du tout assez le temps de faire ça aujourd'hui.
Je suis complètement d'accord. Et je me suis rendu compte que ça faisait super longtemps que je ne m'étais pas ennuyée. Je pense qu'aujourd'hui, comme beaucoup de personnes, j'ai tendance à toujours vouloir chasser l'ennui, à toujours me trouver des occupations. Et je pense qu'aujourd'hui, dans nos sociétés, en fait, on ne s'ennuie plus. On a toujours des trucs à faire, et quand on n'a rien à faire, bah, on cherche toujours à remplir les moments de vide. Et c'est vrai que c'est plutôt ennuyeux de s'ennuyer, je vous l'accorde. Mais le fait d'être tout le temps occupé, ça fait que notre cerveau, il est sursollicité en permanence et qu'il n'y a plus de place pour le reste. Et le reste, c'est toutes ces choses super importantes que sont l'imagination, la créativité, la contemplation ou juste laisser aller les pensées qu'on retient bridées toute la journée. Mais en même temps, peut-être que ça nous arrange de ne pas se retrouver face à ces pensées.
Ouais, peut-être que tu tiens quelque chose là.
Ouais, parce qu'en fait, je me dis que les pensées que beaucoup d'entre nous on a aujourd'hui, c'est pas forcément des pensées rassurantes. Je pense qu'on a beaucoup tendance à avoir des pensées hyper stressantes d'anticipation face à l'avenir, ou alors on rumine le passé. Et peut-être qu'en fait, on est tout le temps occupé parce qu'on ne sait pas vivre l'instant présent. Mais du coup, ça fait qu'on cherche à s'occuper tout le temps, mais alors vraiment tout le temps, tout le temps. Genre, en marchant, on écoute de la musique. Dans les transports, on regarde son portable ou bien on lit. En mangeant, on regarde une série ou une vidéo. Et tout ça, ça fait qu'on est complètement déconnecté de ce qui nous entoure. on est un peu dans notre bulle en fait et on ne voit plus rien. Donc je pense que ne rien faire, c'est aussi quelque chose qui nous permet d'observer un peu plus ce qui nous entoure. Alors, c'est un peu cliché ce que je vais dire, mais du coup, on n'entend pas les oiseaux chanter, on ne voit pas le paysage dans les transports, on ne voit pas les gens sourire, et ça fait qu'on est déconnecté des interactions humaines et de la nature en fait. Et peut-être que prendre le temps d'apprécier ce qui nous entoure et de se sentir ancré dans notre environnement, ça nous permettrait de mieux comprendre qu'on en fait partie. En fait, s'ennuyer, ça nous permettrait d'être plus connecté à ce qui nous entoure et à nous-mêmes. Mais bon, on est dans une société productiviste et dans cette société, ne rien faire, c'est mal vu et la paresse est un défaut.
C'est totalement vrai. Et puis je pense que la lenteur, c'est aussi vu comme quelque chose de négatif. Alors que pour moi, la lenteur, c'est ralentir au rythme de la nature. Et je ne sous-entends pas par là que la nature est lente, mais qu'en tout cas, comparée à notre rythme de vie qui est plutôt artificiel, elle nous paraît lente.
Ouais, c'est des questions de temporalité.
Ouais, c'est un peu comme ce que nous disait Mélissande tout à l'heure, quoi. Et puis, en ce moment, je lis un livre qui s'appelle « Manière d'être vivant » de Baptiste Morisot, qui est un philosophe français. Et il parle de la crise de la sensibilité, qui serait une crise des relations qu'on a au vivant. Et il dit que le fait qu'on ait une relation plutôt productiviste vis-à-vis du vivant et le fait qu'on le considère comme en dehors de notre monde, alors que l'humain fait lui aussi partie de la nature, ça pourrait être une des causes de la crise écologique. Mais du coup, en fait, quand on réfléchit bien, c'est quand même pas très logique qu'on ne vive pas au rythme de la nature alors qu'on en fait partie.
Mais qu'est-ce que ça veut dire en soi, vivre au rythme de la nature ? C'est vrai que pour moi, c'est un peu abstrait. Est-ce que ça veut dire vivre sans horloge, se lever avec le soleil et se coucher quand il fait nuit ?
C'est vrai que c'est un concept assez éloigné de nos sociétés occidentales et que je pense que du coup ça le rend un peu difficile à s'imaginer. Mais du coup par rapport à ça, j'ai lu un article de Socialterre qui imagine une société future qui aurait fait le choix de sobriété énergétique. Et en fait, tout irait plus lentement, on n'aurait pas vraiment le choix parce qu'on vivrait au rythme du vent, du soleil et de l'eau. Et ça nous forcerait à être beaucoup plus patients parce qu'il y aurait des périodes creuses et d'attente où en fait juste il n'y aurait pas d'énergie. Et c'est vrai que l'éloge de la lenteur, ça m'avait d'abord fait penser au silence. Et je me suis dit que cette société, ça changerait forcément notre façon d'entendre le monde car il y aurait beaucoup plus de périodes de silence en fait tout simplement, sans les bruits industriels et avec plus de sons naturels.
C'est difficile à imaginer ce monde, mais ça fait un peu rêver en vrai.
Ouais, ça fait un peu rêver. Après, je pense quand même qu'on a tendance à associer le fait d'être dans la nature au silence, un peu comme un échappatoire au bruit. Alors que quand on prend le temps et qu'on apprend à écouter le silence, on se rend compte qu'il n'existe pas vraiment dans la nature. Et ça, Baptiste Morisot le dit très bien dans son livre. Je vous cite. « La violence de notre croyance en la nature se manifeste dans le fait que les chants d'oiseaux, de grillons, de criquets, sont vécus dans la mythologie des modernes comme un silence reposant. Les modernes sont assez fous pour y voir un silence qui ressource, une solitude cosmique, un espace apaisé, un lieu vide de présence réelle et muet. » Et en fait, ce qu'il entend par là, c'est que la nature est pleine de bruits, qu'il décrit comme des messages géopolitiques, des négociations territoriales, des jeux, et bien plus encore. Et je trouve que c'est vraiment une super belle manière de décrire la nature, en fait, de façon pas idéalisée, quoi. Et il faut réapprendre à entendre ces bruits, et pour ça, il faut ralentir suffisamment.
C'est beau ce que tu dis. Mais ouais, la nature, elle grouille de vie et c'est ça qui la caractérise.
Ouais. Après, je ne parle pas non plus de retour à la nature en symbiose avec les arbres. Et Juliette Vauclair le rappelle très bien. C'est une spécialiste de l'écologie sonore radicale. Elle nous rappelle qu'il ne faut pas non plus opposer le bon silence au mauvais bruit, car c'est un peu un mode de pensée qui serait proche des politiques conservatrices qui disent que tout était mieux avant, à l'époque où on vivait en symbiose avec la nature. Bref, je vous passe. Mais en tout cas, ce qu'elle nous dit, c'est qu'on a quand même besoin de manifestations politiques, de fêtes populaires et d'expressions sonores pour des changements écologiques radicaux.
C'est hyper pertinent ce que tu dis. Pour finir en douceur sur le sujet, je vais revenir sur ce que tu disais sur le fait d'apprendre à écouter les chants de la nature. Un petit conseil, si vous voulez prêter plus d'attention à tout ça, vous pouvez vous livrer la prochaine fois que vous vous promenez dans la nature ou même en ville à un exercice de pleine conscience. Ça permet de mieux s'ancrer dans le temps et dans l'espace. La pleine conscience, ça veut dire prêter attention à tous ses sens, genre tout ce que reçoit notre corps. C'est-à-dire le sol sous nos pieds, le frottement des vêtements, chaque partie de notre corps. Mais aussi tout ce qu'on voit, tout ce qu'on entend, toutes les odeurs. C'est assez fou comme expérience, on se sent vraiment vivre et ça permet de se focaliser sur l'instant présent. Je vous encourage à essayer.
Merci encore les filles pour cette belle chronique, parfaitement dans le thème de l'éloge à la lenteur. Passons directement à une autre chronique. En effet, nous, on va passer à Portrait d'hier et d'aujourd'hui, présenté par Mathilde et Mélissandre.
Il était une fois une petite ville au cœur de l'Amérique où toute vie semblait vivre en harmonie avec ce qui l'entourait. Et puis, un mal étrange s'insinua dans le pays et tout commença à changer. Un mauvais sort s'était installé dans la communauté. De mystérieuses maladies décimèrent les basses-cours. Le gros bétail et les moutons dépérirent et moururent. Partout s'étendit l'ombre de la mort. Il y avait un étrange silence dans l'air. Qu'est-ce qui a déjà réduit au silence les voix du printemps dans d'innombrables villes américaines ?
Rachel Carson, imaginez-vous une femme brune, aux cheveux courts, le regard profond, le visage rond. Quand on tape son nom sur Google Images, on la voit beaucoup dans la nature avec des carnets et des jumelles.
En fait, elle nous a pas mal intéressés avec Mathilde, donc on a fait plein de recherches pour dépouiller toute sa vie. On a appris qu'elle a étudié dans une fac américaine jusqu'au master. Elle a étudié la biologie. Et ensuite, elle a travaillé rapidement, en fait, elle n'a pas pu faire une thèse, pour vulgariser et diffuser des informations scientifiques auprès du grand public. Elle avait notamment une émission de radio, ouais, c'est un peu notre icône en fait, qui s'appelait Romance Under the Waters, avec un bel accent français. Et c'était hyper important en fait son travail de vulgarisation parce que ça a vraiment permis de faire sortir l'écologie des laboratoires.
Oui, et au fur et à mesure, elle se concentre sur l'écriture d'ouvrages. Elle publie d'abord des livres sur la mer. Le premier sort en 1941, Under the Sea Wind. Puis la publication de Silent Spring en 1962 lui permet de devenir complètement écrivaine à plein temps. C'est un énorme succès aux États-Unis.
Ouais, t'as raison. C'est vraiment un énorme succès. En fait, son bouquin, il est hyper intéressant, hein, Le Printemps Silencieux en français, parce qu'il parle des dangers des pesticides, et notamment le DDT, le dichlorodiphényltrichloroéthane.
Et à tes souhaits. Hein.
Petit rappel historique, on est aux États-Unis dans les années 60. L'agriculture à cette époque, elle s'intensifie vraiment de foufou. L'idéologie du progrès, elle est plus que jamais ancrée dans la société américaine. Et on reste vraiment convaincu qu'on peut tranquillement maîtriser la nature par la technique sans conséquences néfastes. Pardon. C'est vraiment open bar en fait. Donc schématiquement, on utilise des produits chimiques synthétiques ultra toxiques pour accélérer la production et s'intégrer dans le marché mondial et faire comme les copains à l'international.
Mais les gens, ils sont OK avec ça ou...
Bah, vous imaginez bien que ce n'est pas OK d'avoir des cancers très jeunes et de mourir en masse, humains comme animaux et végétaux. Donc les habitants des régions où on a utilisé ces pesticides comme le DDT se sont vraiment mobilisés, avec l'aide aussi de Rachel Carson, pour arrêter ces épandages massifs aériens de DDT qui étaient en plus mélangés à du fioul. Donc pas cool. Et j'aime bien l'expression qu'elle utilise de biocide au lieu de pesticide. En fait, le DDT, il tue pas que les insectes, il éradique toute vie.
Enfin, ça reste un livre. En plus, Rachel, à l'époque, c'est une femme, quoi. C'est un peu compliqué. Ça a vraiment eu un impact sur les gens ?
Bah, c'est une bonne question. En fait, son livre, il a vraiment eu un impact parce qu'il a eu beaucoup de succès. Elle parle des conséquences vraiment nulles des biocides avec une approche très sensible et qui permet à tous de lire et pas seulement la communauté scientifique. Ça a vraiment permis à l'écologie d'être un mouvement social et politique. Mais Rachel, elle a vraiment galéré pour voir son projet aboutir. Il y avait des lobbies, des industriels qui ont tenté de faire une espèce de campagne d'acharnement, de dénigrement contre elle, avec une bonne grosse dose de misogynie. On la traitait de menteuse, d'hystérique, bon, habituelle hein, pour une femme qui s'exprime un peu trop fort. Mais on l'a aussi traitée de défenseuse fanatique de la nature ou encore de folle anti-progrès. Et on va même jusqu'à la traiter de suppôt du communisme, rien que ça.
MDR.
Ça a vraiment permis l'interdiction du DDT 10 ans plus tard, en 72, même si ça a été remplacé par 300 équivalents par la suite. Non, on ne dit pas trop fort. Ouais, bref. Mais c'est vraiment une énorme victoire.
Là, tu as beaucoup parlé de Silent Spring, mais notre chère Rachel a écrit d'autres ouvrages, plus en lien avec sa passion d'origine, les milieux marins. Elle a beaucoup réfléchi à la relation au temps des êtres vivants, dont les humains, à travers ses livres.
Bon là, c'est des longues phrases, mais elle exprimait comment en fait dans ses bouquins concrètement ?
Eh bien concrètement, Carson était fasciné par le temps géologique et les processus lents et transformateurs de la nature. Dans ses œuvres comme The Sea Around Us et Silent Spring, Elle soulignait souvent le contraste entre la nature éphémère de la vie humaine et les rythmes lents et durables de la Terre. Par exemple, elle décrivait fréquemment comment les océans, les paysages, les écosystèmes évoluent au fil des millénaires, une perspective qui incitait à l'humilité et à un sens élargi de la responsabilité envers la planète.
Prenez des notes, les amis.
Rachel était particulièrement sensible aux cycles de la nature, tels que les marées, les saisons et les migrations. Dans The Edge of the Sea, elle écrivait sur la nature intemporelle et rythmique des écosystèmes côtiers, suggérant que ces cycles nous connectent à un flux d'existence plus vaste qui transcende les moments individuels.
Mais du coup, question concrète, est-ce que pour elle, notre relation au temps est réellement coordonnée avec la temporalité de la nature ?
Ouais, Rachel opposait souvent la vision étroite et à court terme de l'humanité à l'immensité du temps naturel. Elle estimait que l'obsession de la société moderne pour les résultats immédiats et les gains à court terme pouvaient nous empêcher de voir les conséquences à long terme de nos actions sur l'environnement.
Ok, et est-ce que c'était poétique du coup ce qu'elle écrivait ? Enfin, on a parlé de sensibilité, de poésie.
En ce sens, oui, on peut dire ça, oui. Dans ses descriptions poétiques, Carson effaçait souvent les frontières entre le passé, le présent et le futur. Par exemple, dans ses écrits sur la mer, elle dépeignait l'océan comme une entité intemporelle reliant toutes les formes de vie à travers les époques. Ses perspectives sur le temps soulignaient l'interconnexion de tous les êtres vivants et l'histoire partagée inscrite dans le monde naturel.
À méditer.
N'est-ce pas ?
Merci beaucoup les filles pour ce magnifique portrait. Juste après la virgule, installez-vous confortablement. C'est l'heure de la lecture au micro avec Louta.
Vert, tige.
Merci beaucoup de continuer à nous écouter. On retrouve maintenant Louta qui va nous lire un extrait des Noces d'Albert Camus. Mais avant ça, on va écouter un extrait d'un documentaire. Est-ce que tu peux juste nous dire le titre ?
Alors, c'est un extrait du film documentaire qui s'appelle « L'homme trop pressé prend son thé à la fourchette » de Sylvie Groux.
C'est parti.
C'est vraiment ça. Mais je veux dire, il y en a qui pensent qu'on est payé à l'heure des fois. Fait quand on arrive dans des bureaux, ils prennent leur temps. Mais finalement, tu sais, je veux dire, on est payé à l'enveloppe. C'est ça le défi d'être courrier. Puis c'est environ 1,75 l'enveloppe dans nos poches. Imagine quand on fait 100 $ dans une journée, combien on a plus d'enveloppes. Souvent sur la radio, tu vas entendre « Mélanie, t'es là dans combien de temps? » Là, normalement, si t'es là dans 10 minutes, tu dis « Je suis là dans 5 minutes. » Puis tu te grouilles pour être là dans 5 minutes. Parce que tu dois être là dans 5 minutes. Parce que sinon, souvent, c'est « Mélanie, on va perdre le client. » Ça, là, ça veut dire « Si je veux qu'on garde le client, puis avoir mes payes par rapport à ce client-là, faut que je me grouille tellement, OK, que t'oublies que tu vas peut-être te faire frapper parce que tu vas aller plus vite que ton... Justement, plus vite que ton rythme, c'est là que tu te fais frapper. Fait que là, tu vas vite, le plus vite possible. Tellement vite que les voitures te klaxonnent. Tellement vite, des fois, que, je veux dire, tu te fais crier des noms. Tu sais, genre, mais voyons, t'es folle, non, non, non. Pourtant,
4-9.
La société qui... La société de consommation, la société, les grosses entreprises, c'est eux qui me disent, brûle tes feux rouges. C'est eux qui me disent ça. Tu sais, je veux dire, c'est eux qui me disent ça. C'est tout le monde qui me dit ça. Va plus vite, va plus vite. Tu sais, moi, j'ai le pouls de la ville là, qui fait ça. Va plus vite, va plus vite. On a besoin de toi, va plus vite, tu sais.
On vit dans une société qui nous pousse sans cesse à l'accélération, à la rapidité, à l'efficacité. On a l'impression de ne jamais avoir assez de temps, de perdre trop de temps. On dit que le temps, c'est de l'argent, donc on le découpe, on le compte, on l'organise. On y fait gaffe pour éviter qu'il nous file entre les doigts. On se réveille tôt et on se couche tard. Peut-être par peur que le temps nous devance pendant notre sommeil. Mais ça nous éreinte, au fond, c'est fatigant. Et c'est important de prendre un moment pour respirer, pour ralentir, pour prendre conscience de ce qu'on rate, en courant en permanence. Bon, je vous apprends rien, parce que Mélina et Essienne vous en ont si justement parlé tout à l'heure. Mais donc j'aimerais bien qu'on prenne un petit temps pour réfléchir à ce que ça peut nous apporter, comme bonheur, comme tranquillité, de s'inscrire dans un rythme plus lent. et je voulais vous parler en particulier de ce que ça peut nous apporter dans notre rapport à la nature, comment souvent ralentir le pas est synonyme d'appréciation et d'ancrage, et comment courir un peu moins et contempler un peu plus peut nous permettre d'accéder à cette beauté naturelle qui jaillit de toutes parts autour de nous quand seulement on lui prête un petit peu d'attention. Donc je vais vous lire un extrait de Noce d'Albert Camus qui illustre assez bien, je pense, ce parallèle entre lenteur et sensibilité à la nature. Pas parce que la lenteur est mentionnée en soi, explicitement, mais plutôt parce qu'en écoutant le récit, on ne peut que s'imaginer, et vous le verrez, hein, que le personnage déambule à travers le paysage très posément pour se donner le temps de s'en imbiber complètement et de s'y ouvrir. Au printemps, Tipasa est habitée par les dieux. Et les dieux parlent dans le soleil et l'odeur des absinthes, la mer cuirassée d'argent, le ciel bleu et cru, les ruines couvertes de fleurs et la lumière à gros bouillons dans les amas de pierre. À certaines heures, la campagne est noire de soleil. Les yeux tentent vainement de saisir autre chose que des gouttes de lumière et de couleur qui tremblent au bord des cils. L'odeur volumineuse des plantes aromatiques racle la gorge et suffoque dans la chaleur énorme. À peine, au fond du paysage, puis-je voir la masse noire du chênois qui prend racine dans les collines autour du village et s'ébranle d'un rythme sûr et pesant pour aller s'accroupir dans la mer. Nous arrivons par le village qui s'ouvre déjà sur la baie. Nous entrons dans un monde jaune et bleu où nous accueille le soupir odorant et âcre de la terre d'été en Algérie. Partout, des bougainvilliers roses dépassent les murs des villas. Dans les jardins, des hibiscus rouges encore pâles, une profusion de roses thé épaisses comme de la crème et de délicates bordures de longs iris bleus. Toutes les pierres sont chaudes. À l'heure où nous descendons de l'autobus couleur de bouton d'or, les bouchers dans leurs voitures rouges font leur tournée matinale et leurs sonneries et les sonneries de leurs trompettes appellent les habitants. À gauche du port, un escalier de pierre sèche mène aux ruines parmi les lentisques et les genêts. Le chemin passe devant un petit phare pour plonger ensuite en pleine campagne. Déjà, au pied de ce phare, de grosses plantes grasses aux fleurs violettes, jaunes et rouges descendent vers les premiers rochers que la mer suce avec un bruit de baiser. Debout, dans le vent léger, sous le soleil qui nous chauffe un seul côté du visage, nous regardons la lumière descendre du ciel, la mer sans une ride et le sourire de ses dents éclatantes. Avant d'entrer dans le royaume des ruines, pour la dernière fois, nous sommes spectateurs. Au bout de quelques pas, les absinthes nous prennent à la gorge. Leur laine grise couvre les ruines à perte de vue. Leur essence fermente sous la chaleur et de la terre au soleil monte sur toute l'étendue du monde un alcool généreux qui fait vaciller le ciel. Nous marchons à la rencontre de l'amour et du désir. Nous ne cherchons pas de leçons ni l'amère philosophie qu'on demande à la grandeur. Hors du soleil, des baisers et des parfums sauvages, tout nous paraît futile.
Merci Luta. C'est un extrait de Noce d'Albert Camus. Merci beaucoup de nous avoir rejoints pour cette deuxième émission sur Radio Prune. Vous pourrez réécouter cette émission en replay, ainsi que notre émission de novembre, qui était vachement sympa aussi. Et très retrouver sympa. Nos sources et les titres de nos musiques. Est-ce que vous avez un dernier mot?
Merci beaucoup. Hein.
Merci pour votre écoute.
Prenez-le. Ah, on m'a censuré, c'est pas grave.
Moi je censure. Aïe, aïe. Enfin bref, c'était Vertige. Je m'excuse un petit peu pour la technique, mais bon, la prochaine fois ce sera meilleur. Retrouvez-nous tous les derniers lundis du mois de 19h à 20h. Et je peux pas m'empêcher de dire à l'année prochaine.
À l'année prochaine.
Merci, bonne fête. Bisous, bisous, salut.
Bye.